J'ai pas fait un coming out foudroyant en mode. Voilà, c'est venu comme ça. Mais on m'a quand même dit, mais Marie, pourquoi t'as besoin de dire que t'es gay? Bah, en fait, c'est ma vie, quoi. Donc, tu te retrouves à devoir en parler. Tu peux pas mentir, tu peux pas le cacher. Et en fait, les athlètes, ouais, qui se sentent capables d'encaisser les jugements que tu vas prendre, parce que t'en prends forcément, qu'ils fassent ce pas-là en avant pour les autres qui, eux, s'en sentent pas capables.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Mon invitée du jour s'appelle Marie Patouillet. Elle est championne du monde de paracyclisme sur route, multimédaillée paralympique du monde et d'Europe de cyclisme sur piste, le tout en 4 ans de pratique du vélo. Vous trouvez ça impressionnant? Pourtant, ce n'est pas pour ces raisons que mon invitée du jour m'impressionne. Marie est également médecin, en parallèle de sa carrière de sportive de haut niveau, et elle a aussi le don de soigner les mots par les mots. Car sa voix, elle l'utilise pour faire passer des messages. Elle fait péter tout ce qui pourrait faire barrage à un sport plus tolérant et inclusif. Marie est handicapée, lesbienne et championne du monde de cyclisme. Marie est engagée et déterminée à faire évoluer les mentalités pour que chacun et chacune n'ait pas à s'excuser d'être qui il est. Elle pourrait clairement avoir la tête dans les étoiles. Elle a décidé d'avoir la tête arc-en-ciel. Salut Marie.
Salut Cléo.
Comment tu vas?
Très bien, et toi?
Bah écoute, ça va, je crois que tu reviens d'une séance un peu costaud là.
Ouais, j'ai les jambes un peu en coton là, mais je suis bien dans le canapé donc c'est...
Ça va, nickel. Alors je suis super contente qu'on puisse te parler. T'es une athlète que j'ai découverte il y a peut-être 2 ans je crois, je dirais. Et je te suis de près sur les réseaux sociaux et je suis très contente qu'on puisse se parler aujourd'hui.
Et bah, vive les réseaux sociaux pour une fois, hein.
Ah ouais.
Et non, moi je suis aussi pareil. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai découvert championne du monde et je suis ravie de pouvoir prendre la parole sur ce podcast-là parce qu'il y a plein de choses à dire.
Allez, je suis d'accord. Ouais, est-ce qu'on va réussir à tout dire sur une petite heure? J'en doute, mais bon.
Au pire, on en fera un deuxième. C'est
exactement.
Pas grave.
vous êtes déjà alerté. Il y a un premier épisode, mais il y en aura sûrement un deuxième. Du coup, Marie, alors pour commencer un petit peu, pour les personnes peut-être qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux comme moi, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel est ton sport et dans quelle discipline aussi tu es, vu qu'il y en a plusieurs?
Donc, je suis athlète paralympique, donc ça veut juste dire que j'ai un handicap et que je rentre dans une catégorie de handicap dans le milieu paralympique. Je pratique du cyclisme. Donc, on appelle ça du paracyclisme. Y a du cyclisme sur piste et sur route. Je fais les deux. Sur route, c'est de la course en ligne. Ça va être des circuits de 80 km. Ouais. Sur la piste, il va y avoir plusieurs types d'épreuves. Des épreuves de sprint avec du 500 mètres, des parts arrêtées. Et puis, des épreuves plus d'endurance avec une poursuite de 3 km. Mmh. Et en fait, je fais tout. je suis médaillée sur tout.
La classe. Ça va, ça commence bien, en toute détente. T'as commencé le cyclisme il n'y a pas si longtemps, finalement, on pourrait dire plutôt sur le tard. Comment t'as découvert le cyclisme? Est-ce que ça a été un choix déjà?
Effectivement, j'ai ma première licence, c'est 2018.
Ok.
Ensuite, j'ai découvert sur le tard, tout simplement. Alors si je retourne au tout début, je suis née avec une malformation de la cheville et de la jambe gauche, qui jusqu'à l'âge de mes 25 ans, hormis un suivi hospitalier régulier, ne me dérangeait pas particulièrement. Et à partir de 25 ans, ma cheville et mon pied s'est dégradé. Et donc en fait, la course à pied m'est devenue totalement impossible, mais de manière définitive.
Okay.
Et donc, mon arrivée dans le cyclisme, on va dire, était un choix fortement orienté parce qu'il me restait que des sports où je n'étais où je n'étais pas en charge, enfin, je n'avais pas à porter mon poids.
Ouais, ouais.
Donc, natation ou cyclisme. Natation, j'en ai fait beaucoup petite et j'ai quand même pas mal souffert de moqueries, et mm-hmm. donc j'ai pas des très très bons souvenirs. Et j'avais pas trop envie de revenir là-dedans.
Lié à ton handicap ?
Ouais. Parce que c'est un handicap qui se voit pas. Quand on me voit dans la vie de tous les jours, ça se voit pas, comme 80% des personnes en situation de handicap. Mais en l'occurrence, à la piscine, il se voit. Et c'est vrai que j'en ai souffert petite. Donc, je suis partie vers le cyclisme. Et c'est vrai que très vite, j'ai trouvé une sensation de vitesse, une sensation de liberté. Avec le vélo, on peut voyager, faire des superbes découvertes et aussi des superbes rencontres.
Ouais.
Et puis, je m'éclate sur la piste, en fait. Mmh. Voilà.
Ça a été, on va dire, un choix induit, mais finalement, qui t'épanouit totalement, quoi.
Ouais, en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, bah, il faut faire le deuil de la course à pied.
Ouais.
Ça a été hyper dur. Et j'ai vu cette porte qui s'est ouverte dans le cyclisme, bah, go, quoi.
Quand t'étais plus jeune, t'étais déjà hyper sportive. Tu disais que jusqu'à 25 ans, t'avais pas eu de problème pour pratiquer tous les sports. Ça a toujours été... Le sport, ça a toujours été quelque chose qui était empreint dans ta vie, qui était important ?
Oui, pour deux raisons. La première, c'est que je savais qu'un jour, cet arrêt de course à pied, ou en tout cas cette dégradation arriverait, on ne savait pas quand.
D'accord.
Et du
ça
coup,
avait été prédit, c'est-à-dire que vraiment,
ouais,
on t'avait dit...
médicalement, les médecins savaient que ça n'allait pas durer très longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais cette volonté d'aller découvrir tous les sports qui me faisaient rêver, donc... Franchement, j'ai fait tennis, natation, hand, surf, ski, télémarque. Enfin, j'ai tout testé pour finir avec le rugby. et puis après, c'était aussi ma manière à moi, parce que je ne suis pas très violente, je n'exprime pas beaucoup ma colère. Et quand il y avait toutes ces moqueries à l'école, je réglais mes comptes sur le terrain de foot, en fait, entre midi et deux. Et c'était par le sport que je réglais... Ouais, je suis différente, ouais. Il me manque des trucs, mais en attendant, je vous mets la misère sur le terrain de foot.
Ça a été une manière pour toi de t'exprimer, en fait, enfin, peut-être de dire des trucs que toi, t'arrivais pas à dire, enfin, de montrer des choses que toi, t'arrivais pas à dire et à formuler verbalement.
Ouais, parce que quand on est petit, enfin, quand on est enfant, on comprend pas tout. En plus, on comprend pas trop ses émotions. Et puis, en France, on n'est pas très fort pour apprendre aux enfants à décrypter ses propres émotions. Donc oui, on a cette colère, on a cette frustration, on a une énorme tristesse. Et d'aller la combler peut-être par le biais de la victoire ou par le biais de la performance, moi, ça a été mon moyen, entre guillemets, de rétablir un équilibre.
Ouais. Donc on t'a jamais finalement fait comprendre, plus jeune, que ce serait compliqué pour toi de faire du sport, malgré ton handicap ?
Non, ça a été une des premières belles rencontres de ma vie. C'est le chirurgien orthopédique qui m'a suivi et opéré. Et lui m'a toujours dit, quoi qu'il arrive, que tu fasses ou pas du sport, ce moment, il arrivera. Donc, profite, fais comme tu as envie, fais comme tu le sens. Et j'ai été extrêmement libre là-dedans. Et ça, je l'en remercie parce que, du coup, même si je peux plus courir, j'ai aucun regret parce que j'ai découvert tous les sports qui me faisaient rêver. Donc, ça, c'est une grande chance. Même si le haut niveau me faisait rêver, parce que je suivais tous les championnats d'Europe, championnats du monde d'athlée en août, c'était mon rendez-vous, quoi. Enfin, et quand je voyais, ça va pas me rajeunir, mais quand je voyais Christine Aron et Marie-Josée Pérec sur la piste, elles me faisaient rêver. Mais je savais que pour moi, c'était loupé. Et quand sur le tard, je découvre le handisport, je découvre le milieu paralympique, et que maintenant je me rends compte que je suis moi aussi athlète de haut niveau. Bon, en fait, comme quoi tout peut arriver.
Et le sport, t'as découvert par toi-même, c'est quelque chose qui était familial, on t'a amené à ça, c'est une passion que tu t'es découverte justement en regardant la télévision ou...
J'ai des parents qui sont... Alors, il n'y a pas du tout de sportifs de haut niveau dans la famille, j'ai des parents qui sont quand même sportifs, plus pour le côté activité physique, bien-être, donc j'ai eu ces valeurs-là... assez jeune. Et après, quand on a cette... Enfin, quand moi, je suis née avec ma malformation, on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose.
Ouais.
Et on a envie de se prouver que physiquement, on peut surmonter ça. On a envie de... Et oui, comme le handicap est physique, pour moi, en tout cas, un manque physique appelle une activité physique. Et c'est par le sport que je me suis épanouie.
Ce manque dont tu parles, justement, t'as eu un besoin, j'aime pas ce mot, mais de combler quelque chose, du coup.
J'ai eu un besoin de me sentir comme les autres.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à accepter la malformation. Je pense que jusqu'à mes peut-être 28-30 ans, enfin, en tout cas, okay. jusqu'à mon entrée dans le milieu paralympique, c'était compliqué.
Alors, ouais, c'est fou, ok, ouais, c'est hyper. Ça a mis vachement de temps. C'est quoi, finalement, le fait de te dire. C'est un podcast psy, hein, je te l'avais pas dit. C'est pas du tout un podcast sur le sport. Le fait de te dire que t'étais arrivée à. Enfin, que maintenant, officiellement, t'étais sportive de haut niveau qui t'a fait accepter ça, ou qu'est-ce qui a été le déclic?
En fait, j'ai malgré la malformation, j'ai toujours eu un très bon niveau physique. Ouais. Et dans mon cursus professionnel, en fait, je suis médecin, mm-hmm. mais j'ai fait des études de médecine militaire.
Ouais.
Et même dans mes tests, j'ai toujours été assez performante. Et bah, je me mentais un peu à moi-même. C'est-à-dire que même moi, je suis habillée, je le vois pas, mon handicap. Ouais, enfin, y a juste quand j'ai des douleurs ou quand je me tords la cheville que ça me rappelle à l'ordre. Mais... Et il y a eu ce moment où bah, je me suis faite réformer de l'armée, parce que quand on ne peut plus courir, être militaire, c'est compliqué.
Ouais.
Bah là, je ne pouvais pas faire autre chose que de le voir en face. Et ça a été un peu compliqué. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit, non mais vas-y, serre les dents et t'inquiète, à 30 ans, ça ira.
Ok, tu t'étais donné, c'était un espèce de goal, genre à 30 ans, ce serait l'éclaircie, quoi.
Ouais. Et en fait, cette dégradation de la malformation... Elle a été violente et elle a été compliquée à digérer, mais en fait, elle m'a rendu service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accepte de plus en plus mon corps, et même pour ma vie perso, on se sent mieux quand on est OK avec son corps, quoi.
Toi, tu n'étais pas au courant qu'il existait, par exemple, des compétitions, je veux dire, les Jeux paralympiques. Si tu suivais les Jeux olympiques, tu savais qu'il y avait les Jeux paralympiques également, non?
Non, je ne savais pas, mais parce que moi, j'ai grandi et j'ai été éduquée dans OK, tu es différente, mais tu vas faire comme si.
OK. Comme, ouais.
Comme si tu l'étais pas, tu vas faire comme tout le monde. Et alors il y a un côté qui est assez positif, c'est-à-dire que ça te donne de l'espoir de pas être si différente que ça, mais en même temps il y a un côté qui est un peu un déni, quoi. Et à un moment donné tu te réveilles et tu te dis mais
ouais,
en fait le para c'est pour moi, enfin je peux pas faire semblant et mentir, quoi.
C'est fou ça, effectivement t'avais complètement mis de côté. Ouais, quand tu parles de déni, c'est complètement ça, en fait. Tu avais complètement mis de côté cette différence. Et d'ailleurs, j'imagine que les autres aussi, peut-être, mettaient dans ta famille ou autour de toi, ton entourage, cette différence de côté. Ce qui fait que t'as pas...
C'est très compliqué parce que même avec mes frères et sœurs, on a très peu parlé de ma malformation parce qu'en fait, ça se voit pas.
Ouais, ouais.
Et je pense que le plus dur, c'est dans les relations, on va dire, intimes, où genre, on rencontre des personnes et puis à un moment donné, on va au-delà. Et là, je me dis, mais en fait... j'ai l'impression d'avoir menti sur toute la ligne, quoi. Alors que non, j'ai pas menti, enfin, peut-être par omission, j'en sais rien, mais c'est très désagréable. Et là, aujourd'hui, par l'étiquette paralympique, parce que maintenant, tu tapes sur Google, tu peux plus cacher grand-chose, et par le tatouage aussi, qui m'a permis de faire ce que je veux de mon corps, et de le rendre plus beau à mes yeux, ça va, quoi.
Les 30 ans, le cap des 30 ans a finalement été salvateur.
Ouais, mais c'est marrant parce que très tôt, je me suis dit ça.
C'est fou.
Très tôt, je voulais être médecin, donc je me suis dit, bon, allez, au pire, je redouble une ou deux fois quand même. Ce qui s'est passé. Je me suis accordé 2 ans de battement et je me suis dit à 30 ans, ouais, voilà.
Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début et c'est vrai que je te l'ai pas demandé, mais t'es médecin, médecin généraliste.
Ouais.
Ça faisait. C'était un peu ton premier rêve.
Ouais.
Avant de devenir sportif professionnel. Et t'en as d'autres, j'imagine aussi. Mais ta carrière, du coup, c'est effectivement un peu particulier. C'est-à-dire que t'as eu une vie classique hors sport pendant des années, jusqu'à 28 ans, c'est ça, au moment où t'as commencé le cyclisme. Et à partir de 28 ans, t'as démarré une autre vie.
C'est ça.
C'est vraiment, pour le moment, ça a été une sorte de points, de cassures, mais positives, si je puis dire.
En fait, c'est comme si... être médecin, ça a été mon rêve, mais depuis que je suis toute petite. Probablement parce que avec ce chirurgien orthopédique et cette rencontre qui m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que j'avais ce rêve de sport de haut niveau aussi petite, mais il ne m'était pas accessible. Enfin, en tout cas, je pensais qu'il n'était pas réalisable. Et quand j'ai ouvert la porte du milieu paralympique, petit à petit, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un truc à faire à Paris. Et puis finalement, en fait, ça a été tellement vite que mais il y a un truc qui s'est fait à Tokyo et puis
ouais bon là on grille des étapes. Mais comment ça s'est passé ton entrée vraiment dans le para à proprement parler? T'as dit j'avais le choix soit entre la natation soit entre le cyclisme. T'as choisi le cyclisme parce que la natation c'était quelque chose qui n'était pas positif pour toi. À partir de ce moment-là, tu t'es dit « Ok, j'ai envie de continuer le sport. Mon seul moyen de continuer le sport, c'est de faire du cyclisme. Quelle a été la suite ? Qu'est-ce qui s'est déclenché à ce moment-là ?
Bah à ce moment-là, j'avais une amie, j'ai une amie d'enfance, mais on se connaît depuis qu'on a 3 mois, quoi. Donc, mon pied, elle le connaît. Elle connaît tout mon cheminement. Et elle bossait pour l'entreprise qui organise le Tour de France.
Ok.
Et le Tour de France ouvre chaque année, on s'appelle ça l'étape du Tour, une course de montagne que les coureurs du Tour de France font parmi toutes leurs étapes. Et c'est ouvert aux amateurs. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'offre le dossard, tu t'achètes un vélo et puis t'y vas. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'avais jamais pédalé sur un vélo de route. J'ai acheté un vélo un mois et demi avant l'étape. Et puis, je suis partie pour 170 km avec 3000 mètres de dénivelé.
Ok.
Et oui, effectivement, c'est totalement inconscient et irresponsable. Il n'empêche que, après avoir sauté 2 ou 3 ravitaux parce que la voiture balai me collait à la roue arrière, j'ai quand même franchi la ligne d'arrivée après 9h32.
Bravo.
Et là, j'ai réussi à me dire, en fait, j'ai pris du plaisir. Et malgré les 9 heures, malgré des douleurs, malgré tout ça. Et je me suis dit, go, on va y aller. Donc, je me suis inscrite dans un premier club. Mes premières courses ont été juste catastrophiques. Et pourtant, je cours avec les mêmes filles aujourd'hui, au niveau international. Okay. Mais ma première course, c'était sur 60 km. Je me fais larguer au bout de 2 km et j'étais toute seule. Donc, en fait, j'ai fait un contre-la-montre toute seule.
D'accord.
Je me faisais rattraper. C'était un enfer. Je m'étais juste dit, tu t'abandonnes pas. Tu finis, tu passes la ligne d'arrivée.
Ah ouais. C'est-à-dire que t'étais débutante, finalement.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le handisport, il faut faire des compétitions internationales pour pouvoir se faire classifier.
D'accord.
Parce qu'il y a plein d'étapes de classification. Bien évidemment, ce n'est pas ton pays. Enfin, ils te proposent dans une catégorie de handicap, mais ce n'est pas ton pays qui te... Sinon, il y aurait un peu trop de triche.
Ouais.
Il faut que ce soit validé à l'international par des commissions médicales étrangères.
D'accord.
Et donc, pour ça, t'es obligé de venir sur des compétitions internationales. Et mes premières compétitions internationales ont été... franchement, c'était horrible.
Ouais, mais c'est normal.
Ouais, non, mais c'est normal. Hein. Mais là, quand je regarde 4 ans plus tard et que je me dis...
Donc, quand on t'écoute, en fait, quand t'as commencé le cyclisme, tu savais que tu voulais le faire à haut niveau. Ça a été direct une ambition, en fait.
Je savais que je prenais du plaisir. Après, moi, à partir du moment où je prends du plaisir, j'ai pas des prédispositions physiques de ouf. Par contre, j'ai un mental.
Ouais.
Il va falloir s'accrocher pour me le défaire.
Donc, ça a été ton goal, finalement. Tu t'es dit, OK, vas-y, je me fixe cet objectif-là. Même si potentiellement, comme ça, sur le papier, j'ai peut-être pas tous les atouts qu'il faut pour, je vais y arriver.
Ouais, je me suis dit. Construire un projet sans penser aux médailles, sans penser à des compétitions particulières. Juste, quand on prend du plaisir dans quelque chose et qu'on n'est pas bon, on a quand même envie de progresser.
Mm.
Et donc, en fait, je me suis juste dit ça.
Okay.
Je me suis dit, on va progresser et puis on verra ce qui se passe.
Et à aucun moment, tu t'es dit, parce que tu avais ton métier à côté aussi,
oui.
Qu'est-ce qui t'a fait basculer, comme ça, assez rapidement, finalement?
Déjà, parce que je pense que comme je venais d'avoir cette réforme de l'armée,
ouais.
J'avais besoin aussi de voir autre chose. Donc, je faisais de la médecine à mi-temps en tant que remplaçante. Mm-hmm. Et puis après, j'ai un côté assez perfectionniste. Et quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien aller au fond des choses, sans forcément aller chercher une performance, mais avoir l'impression de bien faire la chose pour vraiment m'épanouir dedans. Mais c'est pareil avec le piano, c'est pareil avec en fait tout ce que j'entreprends. Tout ce que j'entreprends, j'aime bien que ce soit... Enfin, savoir faire les choses. Et en l'occurrence, je ne savais pas pédaler. je savais faire du vélib, quoi, mais je ne savais pas... Il y a une différence entre faire du vélib et faire du cyclisme, clairement.
Comment ça s'est passé, cette découverte-là du cyclisme et ton entrée dans le haut niveau hyper rapidement, du coup un peu traumatisante, comme tu disais? Est-ce que ça a été vite? La progression, elle arrivait vite? Comment ça s'est passé?
La progression est arrivée hyper vite, dans le sens où on m'a conseillé de me mettre sur la piste pour progresser sur la route.
Ouais.
Et quand je suis arrivée sur la piste, j'ai trouvé des sensations que j'avais quand je courais, c'était vraiment enivrant. Enfin, ça a été assez fort, un gros coup de foudre en fait. Et je me suis dit, ok, je veux rester sur la piste. Et d'ailleurs, pendant un temps, je faisais que de la piste. Mmh. Et j'avais mis la route de côté. Et en faisant cette piste-là, donc j'avais une séance par semaine. Le club nous emmenait une séance par semaine à l'INSEP. Et à l'INSEP, j'ai croisé la route de Grégory Bauger. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas...
Grand champion.
Ouais, grand champion mondial et puis vice-champion olympique. Mais,
en sprint ?
En sprint, c'est vrai. Et il y a eu cette rencontre qui, au début, il est juste venu me relever après deux chutes. Hein, sur le... et puis, petit à petit, il m'a donné des conseils. Et puis, il y a eu une première médaille. Et depuis, en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on se quitte pas à l'entraînement. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi généreux humainement, il y a un truc qui se passe. Il y a un transfert de valeurs, il y a un transfert d'expérience. Et ça a été un énorme catalyseur. Enfin, il a tout accéléré dans mon apprentissage du vélo.
Et c'est vraiment lui qui t'a fait prendre ton envol, quoi. Enfin, qui t'a
poussé... Oui, mais parce
qu'il
y a eu un vrai lien de confiance réciproque, il y a eu un vrai lien de respect. Et quand il y a ça, en fait, tout peut se passer, ouais. et tout peut être dit. Et à ce moment-là, il n'y a pas de tabou et tout est dit. Et on avance ensemble, quoi.
C'est lui, enfin, tu dirais que c'est lui presque qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais aller loin et avoir de très bons résultats.
Ouais, ouais, parce que moi, de nature, j'ai pas du tout confiance en moi.
Ouais.
J'ai même tendance parfois à avoir envie de m'excuser d'être sur le podium. Enfin, donc non, c'est vraiment lui. Quand je fais ma première médaille au championnat du monde en 2019, il me dit on va à Tokyo. Et je lui dis ah bon.
Quoi?
Il me dit, tu fais médaille de bronze à un moment donné.
Il se passe quoi,
il faut y aller. Donc, ouais, lui, c'est lui un peu qui m'a. Même si je commence à apprendre et à. Parce qu'il faut prendre un peu confiance quand on fait du haut niveau, mais c'est lui qui m'a porté vers le haut niveau. Ouais.
Et là, 4 ans après, maintenant, tu te rends compte quand même que. T'as dû. Alors, je sais pas, j'aime pas ce mot de talent, mais enfin, en tout cas, que t'as ta place et que. Et que tu mérites toutes les médailles. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu viens de faire aussi championne du monde sur route.
Je me rends compte que j'ai tout fait, en tout cas, pour aller les chercher. Enfin, même pas pour aller chercher les médailles, parce que la vérité, c'est que je ne pense jamais aux médailles.
Okay.
Pour moi, si je pense aux médailles, c'est que la course, elle est déjà finie.
Ouais.
Et du coup, je ne suis plus dans la course. Je prends l'exemple des championnats du monde sur route. J'ai commencé à penser au podium à 1 km avant la fin de l'arrivée. Enfin, à 1 km de l'arrivée. Et j'ai commencé à penser au titre quand j'ai vu le panneau de 200 mètres.
Okay.
Avant, il n'y avait pas de médaille en tête.
Ouais.
Il n'y avait rien de tout ça. Et aujourd'hui, je sais que j'ai aucun regret sur chaque séance, sur toute la réflexion que je mets sur mon projet de perf. En fait, c'est ça qui me passionne vraiment, les médailles. C'est bien, c'est une récompense. Ça permet de remercier tous les gens qui s'occupent de moi. Mais moi, ce qui me passionne, c'est la construction du projet de performance, c'est d'être dans l'échange permanent avec prépa mental, psy, prépa physique, nutritionniste, Greg. Et en fait, c'est toute cette alchimie-là qui me passionne et qui fait que quand je vois ce que ça fait sur le vélo, bah, c'est génial, en fait, c'est magique. Mais en fait, les médailles ne sont que la conséquence de ça. Et j'y pense très rarement, même pour Paris. Paris, je pense juste à aller chercher mon meilleur niveau de performance. Mm-hmm. Franchement, j'ai envie de dire bon courage aux filles, à mes adversaires pour venir me chercher. Après, si elles me battent, bravo à elles, quoi.
Presque, en fait, tu serais satisfaite de faire tes meilleurs
chronos,
ouais. Même si tu n'es pas sur le podium, par exemple.
Bah, c'est ce qui s'est passé à Tokyo.
Ouais.
Mon meilleur souvenir et ma plus belle perf, c'est ma 4e place aux 500.
Okay.
Et pourtant, je fais 2 médailles de bronze. Mais c'est ce temps que je fais aux 500 qui était... Franchement, moi, j'y croyais pas. Parce que le 500 mètres, c'est une épreuve de sprint. Dans le cyclisme sur piste, les sprinteurs ont des fessiers et des cuisses assez développées. Mm-hmm. Chose que je n'ai pas du tout. Donc, j'ai pas du tout un profil type pour faire du sprint. Mais j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui accepte qu'en fait, je prends tellement de plaisir dessus qu'on ne se pose pas la question du profil. Mm-hmm. On y va, on s'entraîne et on fait. Et ce chrono-là, moi, il m'a donné les larmes aux yeux. Quand j'ai vu Greg en visio, c'était pareil. Et j'en suis... je crois que c'est mon meilleur souvenir des Jeux.
C'est fou.
Et pourtant, c'est du chocolat. Quoi.
Le chocolat, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal.
et, Et effectivement, t'es dans le para aussi, donc il y a des spécificités. Je crois que t'es dans une... Il y a des catégories, ouais, qui sont très précises en fonction du type de handicap. Je crois que toi, c'est...
C'est 5.
C'est 5. Ouais. Donc, c'est handicap des membres inférieurs.
Non, il y a des membres inf, membres sup.
OK.
C'est juste que c'est... Moi, dans ma catégorie, c'est soit le pied,
ouais,
soit la main qui est touchée.
D'accord.
En fait, ça remonte à part, en fonction des étages sur le corps... enfin, en dessous de cheville, tibia, au-dessus de genou, voilà, comme ça.
Il y a, c'est vrai que dans le sport para, souvent les gens, je vois autour de moi, c'est des choses que j'entends, même mes parents qui sont professeurs de PS, donc qui disent, oh là là, on trouve ça hyper intéressant de regarder le para, mais on comprend rien parce qu'il y a trop de catégories, parce que du coup il y a plein de courses. Comment est-ce qu'on peut expliquer plus simplement ça aussi aux gens et
C'est compliqué à expliquer, ouais, et en plus c'est un sujet sensible parce que ça touche bah, forcément une partie de notre corps. Mm-hmm. Et ça reste quand même très intime.
Ouais.
Moi, je sais que je suis rentrée des Jeux, j'ai pris des messages de violence me disant que j'avais rien à faire en handisport.
D'accord.
Parce que mon handicap se voit pas, ouais, et parce que... Et d'ailleurs, j'ai fait le choix depuis ces messages-là de ne plus expliquer vraiment ce que j'ai.
D'accord.
Parce que quand je l'ai fait, j'ai vu que ça avait été mal compris, donc réduit. Mm-hmm. Et effectivement, si j'avais uniquement ce que les gens rapportent sur les réseaux ou dans les médias, bah, j'ai pas ma place en handisport.
D'accord.
Donc, c'est vrai qu'il y a une barrière de compréhension. Mm-hmm. Et franchement, j'ai pas trop la réponse. Si ce n'est de voir le handisport comme une performance vraiment sportive, mm-hmm, comme dans le milieu olympique, sans forcément essayer de comprendre pourquoi l'athlète est là. En fait, s'il est là, il a passé 1, 2, 3, 4 commissions, des confirmations, des reviews, des... Et juste prendre la perf comme elle vient. Comme quand on regarde une épreuve olympique, quoi. Mmh.
Comment on réagit et comment on vit le fait de presque se faire classifier le type de handicap, en fait. Genre, t'es pas assez handicapé pour pouvoir être sur ce type de course. Comment tu le gères en tant que personne ? C'est ultra violent.
Ouais, c'est vrai que... Alors moi, j'ai mon côté médical qui me sauve beaucoup. C'est-à-dire que dans tout ce côté-là, toutes les situations qui peuvent être considérées comme violentes par rapport au corps, j'endosse très rapidement la casquette de médecin et je me dis que c'est... Je rationalise beaucoup. Mmh. Par exemple, c'est pareil, les contrôles antidopage, il y a des trucs... Enfin, quand on doit uriner devant quelqu'un, c'est... Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et c'est vrai que là, je vais être honnête, moi, je passe en casquette médecin et... Je ne me pose plus la question, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des athlètes, en plus, qui rentrent dans des débats de... Les classifications sont mal faites. Mm-hmm. Lui, il est moins handicapé que moi. Ce n'est pas juste que je cours contre lui. Ouais, moi, c'est sûr. Hein, tu prends le carré final des Jeux. Je suis la seule avec un handicap en bref.
OK.
Les trois autres filles, elles ont un handicap membre sup. Mmh. Une fois que le vélo est lancé, elles ont leurs deux jambes pour appuyer. Moi, une fois que le vélo est lancé, j'ai le handicap sur la jambe. Mais dans ma tête, mon aventure dans le sport de haut niveau, ça se finit à Paris.
Okay.
Et j'ai pas envie de... Pas de perdre de l'énergie, mais j'ai, en tout cas, mon énergie, j'ai envie de la mettre ailleurs. C'est un choix que j'ai fait. Et ok, bah, elles ont leurs deux jambes, il leur manque une partie de leur poignet, de leur main. Bah ouais, on va jouer comme ça, c'est le cadre, je l'accepte. Et j'évite de penser trop à des formes d'injustice que je peux comprendre, que j'entends. Il y a des athlètes en natation, en plus au jeu c'est compliqué parce que ils réunissent des catégories.
D'accord.
Qui sur les championnats du monde sont vraiment séparées, et là oui il y a une nette perte de chance pour certains athlètes.
C'est vrai que c'est des sujets finalement dont on parle assez peu, qui sont très polémiques et on ne donne pas forcément non plus la parole aux personnes concernées. Donc c'est vrai que ça peut être assez particulier. J'entends aussi du coup que les gens soient un peu perdus aussi des fois et ne comprennent pas très bien. Toi, tu concours aussi avec les valides.
Ouais.
Tu as fait une deuxième place d'ailleurs au championnat de France.
Et même un titre par équipe.
C'est génial.
Ouais.
Trop bien. Est-ce que est-ce qu'il y a une sorte de fierté aussi à dire bah, je cours aussi finalement avec les valides?
En fait, plus j'avance dans le sport paralympique, plus j'ai cette envie que les gens découvrent le paralympisme. Mm-hmm. Et pour moi, quand on est dans des situations, on va dire, de faible handicap, donc quand on est dans les catégories les moins touchées par le handicap, En fait, c'est presque un devoir d'aller sur les compétitions valides, d'aller se montrer, d'aller dire ben ouais, on est là, on fait des performances en fait. Le handisport, c'est pas juste une personne qui est en situation de handicap et qui fait du sport en fait. Il y a une vraie performance sportive derrière, il y a une vraie construction de projet et parfois on a un peu l'impression qu'on est oublié, parfois on a un peu l'impression qu'on nous voit juste avec notre étiquette de handicap. Et la performance, bon bah en fait c'est déjà bien qu'on fasse du sport en ayant un handicap en fait, alors que non, c'est pas ça. Mais ouais, moi quand je monte sur des podiums au championnat de France élite, ça a du sens quand je vois la jeune Heidi Gauguin qui est de ma catégorie, qui fait double championne du monde au championnat du monde junior élite. Bah en fait c'est juste génial, enfin c'est tout nouveau, c'est et je trouve que ça fait rayonner le paralympisme, mais de manière hyper positive. Et on se détache de l'étiquette. Enfin, on prend plus le sportif dans sa globalité que juste en lui collant l'étiquette.
C'est aussi le moyen de se référer finalement au valide. C'est-à-dire que quand on, dans le paralympisme, on peut moins se projeter sur est-ce que la performance qu'elle fait est impressionnante ou pas.
Ouais, c'est sûr qu'il y a cette comparaison, comparaison avec avec le milieu olympique, mais c'est pour ça que pour moi, les athlètes paralympiques.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les moins touchés par le handicap ont presque ce devoir d'aller se confronter aux valides pour que les gens comprennent qu'en fait, on fait des vrais perfs et que même dans les catégories les plus handicapées, c'est une vraie performance, autant que ce que font le milieu olympique, en fait. C'est pas juste quelqu'un qui a une situation de handicap qui fait du sport. Il y a une vraie exigence, il y a des vrais compromis que chaque athlète font. Pour moi, c'est presque un devoir d'aller participer, même si, oui, on va être honnête, des chances de médaille, on en a pas beaucoup dans le milieu. Enfin, je pense que jamais tu me verras en équipe de France. Ouais, mais c'est des gens de France, mais jamais tu me verras en équipe de France... olympique. Peut-être que Heidi a plus de temps devant elle pour être peut-être la première femme à faire les Jeux olympiques et paralympiques, et franchement je lui souhaite, et
ce serait génial.
Ça m'étonnerait pas qu'elle y arrive. Moi en l'occurrence j'ai un bon niveau, mais je suis trop vieille. Là il faut le dire quand même.
Non, je ne te laisserai pas dire ça. Tu as le droit de le dire, mais je ne confirmerai pas. pour continuer ce que tu dis, effectivement, tu es une sportive qui est engagée. Je peux utiliser ce terme-là, ça te convient. Tu es quelqu'un qui milite aussi pour un sport plus inclusif. On parlait de handicap, mais il n'y a pas que ça. C'est également dans le sexisme. C'est des sujets où tu fais entendre ta voix, dans lesquelles tu prends part. C'est important pour toi, justement, de te faire entendre et de prendre la parole sur ces sujets-là, donc le sujet du handicap, mais également sur d'autres sujets, comme le sujet du sexisme, par exemple.
Oui, pour moi, c'est hyper important. Déjà parce que je crois en la vision globale de la personne, et que considérer une personne juste selon un prisme ou une étiquette qu'on lui colle, c'est pas... Pour moi, c'est pas considérer la personne, tout simplement. On est tous différents, on est tous uniques, et on a chacun nos caractéristiques. Et pour moi, l'inclusion, ça se conjugue au pluriel. Alors oui, il y a des causes qui nous touchent plus que d'autres. Moi, ça va être le sexisme, ça va être l'homophobie dans le sport, mais il en existe des dizaines, cinquantaines, voire centaines, je pense, de discriminations. Et encore plus dans le milieu paralympique où forcément il y a cette grande étiquette du handicap qui est aussi une forme de discrimination et où l'inclusion est extrêmement importante. C'est pas parce qu'on inclut le handicap qu'on est inclusif partout et qu'on n'a rien à se reprocher derrière. Il y a des ambiances sexistes. Oui, il y a des comportements homophobes. Et pour ça, je pense que bah, il faut en parler, il faut en discuter, il faut parfois expliquer, en fait, parce que tout simplement, parfois, les gens n'ont pas les notions, ou du moins les connaissances, sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, ce qui se dit et ce qui se dit pas, sur quoi on a le droit de rigoler, sur quoi on n'a pas le droit de rigoler, dans quelle situation. Enfin, tout ça, en fait, c'est hyper complexe et je le comprends totalement. Mais c'est, ça ne doit pas être une excuse pour ne rien changer, en fait.
Toi, tu as déjà été victime toi-même de comportements sexistes ou homophobes dans le milieu du sport ?
Bah. Oui. Ça y est, on attaque les sujets sensibles. Non, bah oui, moi, le milieu du vélo, c'est un milieu qui est encore très masculin. Ouais. Dernièrement, il y a une vidéo qui est un peu virale qui a tourné avec le Tour de France féminin où on voit Jeannie Longo se prendre en plein plateau. Des phrases extrêmement violentes.
Certains diront, c'était il y a 30 ans. Mais
si je te dis qu'en 2021, au jeu, quand je demandais juste qu'il y ait une ambiance avec des blagues un peu moins salaces, un peu moins lourdes, on m'a répondu que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Pour moi, c'est du même niveau. Donc, c'est qu'il y a encore des choses qui n'ont pas changé. Et oui, quand on est une femme athlète de haut niveau, entendre des blagues en permanence, c'est lourd. En fait, ça met pas dans des conditions de perf. Ça sort de sa bulle de perf. C'est pesant. Ça peut être anxiogène. Ça peut exclure aussi parce que, à table, on a plus envie de vite partir et de pas participer à la conversation. Donc, tout ça, ça joue en fait dans le cadre de la performance. Alors moi, j'ai cette, on va dire, cette chance d'être out dans tous mes milieux de vie et d'avoir aucun souci sur mes orientations sexuelles. Mais quand je sais qu'il y a des athlètes aux Jeux à Tokyo qui ne peuvent pas et ne se sentent pas capables de parler librement de leur vie conjugale, je trouve ça injuste. Comment est-ce qu'on peut demander à des athlètes d'aller chercher leur meilleur niveau de perf si en plus ils doivent cacher la personne avec qui ils partagent leur vie, quoi. C'est pas... Ouais. Pour moi, c'est qu'ils ont même pas... Et pourtant, ils ont perfé. Ouais. Mais c'était même... Pour moi, c'est... ils ont encore un champ énorme pour aller encore plus loin dans la performance. Parce que la sphère, l'ambiance en tout cas de leur performance n'était pas assez safe pour se sentir vraiment bien.
Pour toi, c'est important parce qu'on a souvent entendu, et on l'entend malheureusement toujours beaucoup, que tout ce qui est, entre guillemets, revendicatif ou qui est de l'ordre du... privé, du personnel, etc., n'a pas lieu d'être ou d'être exprimé dans le milieu du sport ou parce qu'on parle de performance et le sport et pas autre chose. Tu comprends, toi, ça que...
Non. Non, je le comprends pas. Et qui plus est, une performance... Alors aujourd'hui, avec la prépa mentale, quand même, on s'en rend un peu plus compte. Mais je pense que par le... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, par le sport de haut niveau... Je vais toujours plus en profondeur dans la connaissance de moi-même. Et aller en profondeur dans la connaissance de soi-même pour aller chercher cette perf, ça veut dire aborder des barrières psy, aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui sont agissantes, en fait, sur notre état d'esprit quand on est à l'entraînement, quand on est en compétition. Un manque de confiance en soi, ça va être agissant sur le vélo, mais on va être honnête, il vient d'ailleurs. Dissocier les deux, pour moi, c'est totalement contre-productif à la perf. Après, chacun et chacune est libre d'aller faire son coming out, d'aller... ça, c'est propre à l'athlète. Mais non, on peut pas reprocher à l'athlète d'aborder les sujets qui le touchent et en plus qui lui permettent de peut-être se sentir plus libéré après pour pouvoir performer.
Est-ce que tu penses même que c'est nécessaire ? Et je parle pour la personne et l'athlète lui-même ou elle-même, mais également pour les autres, potentiellement, en sorte de... Pas d'exemple, mais tu vois, de permettre aussi ça.
Je pense que les athlètes qui se sentent capables d'aborder certains sujets qui paraissent sensibles et qui ont les épaules assez larges pour supporter le jugement, parce qu'il y a ça, en fait, quand on parle, on a des jugements. Moi, je prends mon exemple perso, j'ai pas fait un coming out foudroyant, en mode... c'est venu comme ça. Mais on m'a quand même dit, mais Marie, pourquoi t'as besoin de dire que t'es gay ? En fait, c'est ma vie, quoi. Donc, il y a forcément une situation où tu te retrouves à devoir en parler. Tu peux pas mentir, tu peux pas le cacher. Et en fait, les athlètes, qui se sentent capables de... En tout cas, d'encaisser les jugements que tu vas prendre, parce que t'en prends forcément, qu'ils fassent ce pas-là en avant pour les autres qui eux, s'en sentent pas capables.
Toi, c'est... ça te semblait nécessaire de pouvoir le faire parce que tu savais que tu pouvais aussi encaisser tout ça?
Bah,
ou ça s'est fait naturellement?
En fait, moi, ça s'est fait sur un quiproquo.
C'est vrai?
Ouais, ouais, parce qu'en fait, au jeu, sur mon compte Insta, il y avait un arc-en-ciel.
Ouais.
Et devant l'arc-en-ciel, il y avait une médaille quand même qui était enfin tout en emoji parce que c'est une communication très très directe et dans le milieu du cyclisme, en fait, l'arc-en-ciel, bah comme sur un maillot de champion du monde, il y a un arc-en-ciel, alors que c'est pas les mêmes couleurs,
ouais.
mais c'est un arc-en-ciel quand même. Et du coup, en fait, quand on communique qu'on met un arc-en-ciel dans le milieu du cyclisme, ça veut dire juste championnat du monde.
Ouais, bien sûr.
Ça veut pas dire LGBT. Ouais, ouais. Et là, on m'appelle en me disant « Ouais, Marie, il y a un projet avec 20 témoignages sur l'homophobie dans le sport. » Et je me dis « Mais à quel moment vous savez que je suis lesbienne, enfin que je partage ma vie avec une femme ?» Surtout que sur les réseaux, je mettais rien.
Ouais.
Et puis je leur dis « Mais bon, en fait, c'est vrai, donc oui. » Voilà, c'est né d'un quiproquo.
D'accord.
Et quand j'ai eu cet appel-là, après, j'en ai discuté... à la maison, et puis je me suis dit, mais en fait, moi, ça me coûte rien d'en parler.
Mmh.
Ça me... En soi, ça changera pas ma vie. J'avais plus peur sur le versant médical, en fait.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui va chez le médecin vérifie si c'est un bon médecin sur Internet.
Ouais.
Et c'était plus ce côté-là que j'appréhendais.
D'accord.
Mais au final, c'était une appréhension totalement foireuse, parce qu'il s'est rien passé.
Ouais.
Mais oui, dans le milieu du sport... Je suis tellement arrivée avec mes gros sabots que du coup, enfin moi, ça me posait pas de problème. Et d'ailleurs, pendant un temps, je me disais, mais en fait, le coming out, ça devrait même pas exister. Enfin, et c'est après que j'ai pris conscience qu'il y avait quand même une signification sociale et politique à ce coming out là, et que tant qu'il y avait besoin de le faire pour les autres, en fait, il fallait qu'il existe.
Mm.
Et bien sûr qu'un jour, j'aimerais que ce soit un non-sujet.
Bien sûr.
Et que quand on m'invite à un événement, on me dise pas quel est le nom de votre compagnon, quoi.
Bah ça déjà, enfin, ouais.
Non, mais c'est, voilà, c'est ouais, des petits malaises bah où du coup, bah on...
Tu fais des coming out permanents.
Ouais, enfin, c'est
en
ça.
En fait, c'est le genre de truc où tu...
C'est ça.
Tu ouais.
mais en tout cas, j'avance dans un environnement extrêmement safe, et même mes sponsors sont... Là-dessus, sont géniaux.
Ouais. Mais... Est-ce que tu as l'impression quand même que finalement, moi je trouve que le sport, malheureusement, est à la traîne sur beaucoup de sujets. On avance quand même vers quelque chose de positif là-dessus, en essayant justement, je sais pas, il y a de plus en plus de documentaires qui sont faits, je pense, Il faut qu'on parle, qui est sorti.
Ouais, qui est génial.
Qui est super. Là, même dans les faits, c'est-à-dire quand même là sur les derniers Jeux Olympiques, je crois qu'il y avait, j'ai les chiffres, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait. 182 athlètes queer,
ouais,
contre 56 à Rio et 23 à Londres.
En français ?
Non, dans la globalité.
Et combien de Français ?
Pas beaucoup. J'ai pas les chiffres des Français, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'à l'échelle mondiale, ou en tout cas, il y a une sorte pas d'effervescence, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui commence à se débloquer, ou en tout cas que...
Y a qu'à prendre l'exemple de l'équipe de foot américaine... avec la dernière Coupe du Monde, quoi. Enfin, elles ont été,
ouais,
elles ont fait passer des messages hyper forts.
Mm.
Après, moi en France, ouais, en fait, j'ai l'impression que le sport de haut niveau apporte beaucoup à la société classique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on transmet beaucoup de valeurs. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, des conférences en entreprise et partager mon expérience et toutes les valeurs qui me transcendent. Parce que je pense que, en fait, la performance, elle n'est pas que sportive. Tu veux ouvrir ton compte de podcast, c'est une performance. Mmh. Tu veux ouvrir, je sais pas moi, tu veux devenir fleuriste et ouvrir ta boutique, c'est une performance. Mmh. Tu veux construire une famille, c'est une sorte de performance. Et en fait, toutes les valeurs qui sont objectivables dans le milieu du sport, parce que c'est que des chronos, c'est que des poids, c'est que des chiffres, et c'est très facilement objectivable, en fait, tu peux les transposer dans toutes tes sphères de vie, en fait. Et dont la plus importante, la prépa mentale. Enfin, moi, je découvre plein de pratiques et je me dis, mais si tout le monde pouvait pratiquer ça dans sa vie, adieu les angoisses, adieu le... Mmh. Et vive l'instant présent. Et tout ça, moi, j'ai à cœur de le partager, et c'est génial quand on voit que les gens sont réceptifs à ça et qu'ils ont l'impression d'avoir pris un bol d'air. Mais l'inverse, C'est comme si le milieu sportif était un peu hermétique à toute avancée de la société.
Ouais.
Et on a l'impression que le sens inverse est plus difficile. Quoi. Mmh. Il passe, il y a quelques trucs qui passent, mais...
Comment tu l'expliques, ça, que le sport soit encore tellement hermétique à tous ces sujets-là, toutes ces avancées, que ce soit effectivement, quand on parle de homosexualité dans le sport, de préparation mentale, de... Enfin, voilà, les sujets sont infinis. Que ça avance tellement longtemps, tellement lentement, pardon, en France.
Bah, quand on rentre dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression que c'est un peu différent, peut-être dans le sport, on va dire loisir. Mais quand on rentre dans le sport de haut niveau, on touche à un domaine d'expertise où chaque membre de cette entité du haut niveau est expert de son domaine. Et ouais, quand on est expert, c'est compliqué de laisser rentrer une certaine curiosité, de laisser rentrer une nouvelle manière de voir les choses. Ouais. Et franchement, c'est rare de pouvoir rencontrer des gens qui se remettent en question, qui savent dire « je sais pas, je vais regarder ailleurs ». Mais ça, c'est partout pareil. Dans la médecine, c'est pareil. Mm. C'est rare les médecins qui vont dire « je sais pas, mais je vais demander ». Et moi, je sais que quelque chose qui m'a énormément séduite avec Greg, c'est que quand... on discute et qu'on ne sait pas, c'est OK de ne pas savoir. Mm. Et c'est encore mieux d'aller demander à quelqu'un qui a plus de connaissances. Et ça, c'est une qualité que je trouve encore trop rare dans le domaine de l'expertise. Et ça va du coup aussi avec l'ouverture d'esprit et ça va avec le fait de se remettre en question sur certains sujets. Enfin, on n'a qu'à parler de les sujets qui concernent l'entraînement de la femme sportive de haut niveau, que ce soit les règles, que ce soit le poids, que ce soit... On est à la ramasse encore, même s'il y a des superbes équipes à l'INSEP qui font des gros travaux de recherche et qui franchement, sont hyper entreprenantes.
C'est encore loin derrière. On avait fait un podcast avec Juliana de l'INSEP.
Ouais.
Sur ça, et c'est chouette, mais que ça existe. Mais effectivement, elle disait que c'était une étude qui avait été démarrée il y a très peu de temps, alors que c'est un sujet qui est traité depuis beaucoup plus longtemps. Je veux dire, c'est enfin, les femmes elles n'ont pas leurs règles depuis 5 ans. Donc aussi, tu vois, il y a un moment donné où tu te dis, il y a des petites choses qui ne font pas trop sens. Mais est-ce que selon toi aussi, on en avait un peu parlé avec Nathalie Péchala dans un ancien épisode, est-ce que ce n'est pas aussi lié à toutes les institutions sportives, etc., qui sont bloquées un peu dans le passé, qui ont du mal justement à vouloir accepter ce type d'avancée?
Mais ça, je crois que c'est dans toute sphère... pro, même familial, même où il y a cette réflexion, mais avant c'était comme ça. Mm. Et on se conforte un peu dans le avant. Et parfois ça fait un peu peur d'aller vers d'autres horizons et de bousculer un peu les codes. Quand on perd ses repères, il y a forcément à un moment donné on a le vertige. Donc c'est pour ça qu'il faut que les athlètes parlent et s'expriment sans forcément être dans la violence, sans forcément être dans le procès, mais juste un échange, quoi, de dire ce qu'on ressent, sans susceptibilité.
Est-ce que tu penses que le changement passera par les sportives et les sportifs?
C'est les premiers concernés. Quand on se sent pas bien dans un environnement de compétition, c'est le sportif qui va. Malheureusement, c'est au sportif de dire là, je me sens pas bien, je me suis pas senti bien, j'étais pas. Donc oui, il va falloir que, enfin, en tout cas, ceux qui s'en sentent capables et ceux qui ont accès à ce qu'ils ressentent vraiment. Parce qu'il y a ça aussi. Faut pas oublier que quand on est sportif de haut niveau, on est quand même pris par cette notion de performance et que on fait tellement de compromis dans notre vie qu'on a tendance à même faire des compromis sur ce qu'on ressent et à se dire mais ça on verra plus tard. Puis le jour où ça explose, c'est violent. Je pense que ça passe par les sportifs. Il faudrait juste que les staffs et les institutions en face lèvent un peu cette sanction, cette épée Damoclès. Ou si on parle, on a l'impression qu'on va tout perdre, quoi. Parce que je pense qu'on peut parler sans... Les choses peuvent être dites sans violence, sans... Juste une discussion, quoi, entre adultes.
Faut qu'elles soient reçues en face, quoi.
C'est ça. Ça s'appelle écouter. Ouais.
C'est pas toujours si évident. Certaines
ça
personnes. C'est rigolo, il y a une sorte de dualité, je trouve, chez toi. De cette rigueur que t'as sur ta performance.
Je suis schizophrène.
Non, mais c'est marrant. Et ce que je trouve hyper intéressante et qu'on voit assez peu, enfin, c'est pas, je vais pas faire de constat ou quoi que ce soit, mais entre la rigueur que tu dépeins sur tes performances, tes objectifs, etc., vis-à-vis de toi-même, et aussi ton look, ce que tu montres de toi, les cheveux rasés, les tatouages, etc., aussi, qui peut paraître beaucoup plus moins dans cette rigueur, si je puis dire, qui est assez inouï.
En fait, ma rigueur, elle prend naissance dans, je crois que la valeur que j'affectionne le plus, et je sais pas si le terme est vraiment très français ou prend sens, mais en tout cas, j'appelle ça, enfin, c'est être honnête avec soi-même.
Ouais.
Mais être honnête avec soi-même, c'est hyper dur d'avoir accès à son désir le plus profond. Parfois, on peut même pas le soupçonner. Et ouais, du coup, si je suis honnête avec moi-même, bah moi-même, c'est les cheveux rasés, c'est les tatouages, mais c'est aussi aller à l'entraînement à 150%. Et si je ne suis pas à 150%, ça sert à rien d'y mettre les pieds. C'est aussi faire le job au niveau nutrition, au niveau sommeil, au niveau bah ouais. Je peux pas sortir autant que je voudrais. Mmh. Tu me verras toujours tourner au Perrier.
Et une très bonne boisson, Perrier.
Ouais, non, c'est c'est génial. Parfois, t'as envie d'avoir un peu plus de fête, quoi. Mais surtout, voilà. Mais ouais, quand je me retrouve à devoir annuler des mariages parce que je suis en préparation de championnat du monde, bah ça fait partie de la rigueur. Mmh. Mais en même temps, si je suis honnête avec moi-même, ce que je veux, c'est faire ma meilleure perf à Paris, et ma meilleure perf, bah, c'est faire ces compromis-là. Donc en fait, même si les deux ont l'air... Il y a une certaine dualité qui se dessine, en fait, c'est quand même extrêmement lié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'affiche autant mes tatouages, que j'affiche mon crâne rasé, que je vais même jusqu'à me colorer même les cheveux pour des compétitions, c'est juste que c'est moi et rien d'autre.
Et ça, presque, tu dirais que ça te permet d'être encore plus dans ta performance?
Oui. Et ce qui est fou, c'est que plus je tends vers ça... Parce que si tu prends les premières photos au début de mon arrivée dans le cyclisme, je ressemblais pas à ça. Enfin, j'avais encore les cheveux un peu longs, j'étais moins tatouée, j'étais moins engagée aussi. Mais plus je tends vers ça, plus je me rends compte que quand je prends la parole devant des gens, dans des entreprises, en fait, plus ça touche.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression de tendre vers le vrai, enfin, en tout cas, mon vrai à moi. Et c'est ça qui touche les gens, c'est de se rendre compte que c'est libérateur, en fait, d'avoir l'impression qu'on peut vraiment être soi sans devoir répondre à des codes, sans devoir répondre à des normes. Alors, ouais, sur le chemin, c'est lourd de se sentir hors normes et hors cadre. Il y a des moments où, ouais, c'est compliqué, mais à la fin, on s'en sent forcément plus libre.
C'est rigolo, parce que ça fait un peu une sorte de circuit par rapport à ce qu'on disait au début, mais finalement... Le sport de haut niveau ces dernières années a aussi permis, si on t'écoute, d'atteindre un toi encore plus toi. C'est très con ce que je suis en train de dire.
Non, mais
finalement, en fait, là, c'est ce parcours-là. Et quand tu disais, ça rejoint en fait ce que tu disais au début. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, parce que le fait d'être devenu sportif de haut niveau, du coup, de comprendre encore mieux qui tu es et d'atteindre ce toi de façon
profonde,
plus profonde. Te permet de t'assumer aussi, d'assumer ton handicap, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, et d'arriver à quelque chose maintenant de
une harmonie,
une harmonie et quelque chose de complet.
Ouais, en fait, ce qui m'a énormément, bon, on va être honnête, hein, déjà ça fait 4 ans que j'ai un suivi psy. Hein.
Ouais.
Je l'ai commencé avant même de rentrer dans le sport de haut niveau. Ça c'est plus vis-à-vis de la gestion de la perte de la course à pied, enfin de la perte en tout cas de l'arrivée en tout cas d'une impotence fonctionnelle. Et par le sport de haut niveau, j'ai découvert la prépa mentale que j'ai moi-même inclus dans mon staff. Et dans cette prépa mentale, on apprend à prendre les émotions comme elles viennent sans se juger. On apprend à identifier les pensées limitantes et à se dire ok, c'est contrôlable, c'est pas contrôlable. Ça se traite comme ça. Et du coup, on apprend à rentrer dans l'instant présent. Et les athlètes, souvent, parlent de flow.
Ouais.
Et quand en découvrant cet instant présent, on a accès vraiment à ses émotions. On va encore plus dans cette honnêteté avec soi-même. Et du coup, on devient encore plus soi. Et Et oui, bah du coup, ouais. Moi, les tatouages, c'est comme ça que, bah, il n'y a pas longtemps, je me suis fait tatouer mon pied, qui a la malformation. Et franchement, depuis ce jour-là, ça a été la première fois que j'ai trouvé mon pied beau. Et depuis ce jour-là, le matin, je me lève, je me dis, putain, il est stylé, quoi. Non, mais, et c'est la première fois qu'il me plaît, alors qu'avant, je le cachais, je pouvais le détester, je pouvais... Donc, ouais, le sport de haut niveau, moi, en tout cas, parce que j'ai choisi d'aller dans ce sens-là, je pense qu'à Paris, j'aurais une belle connaissance de moi, en tout cas.
Justement, les objectifs à Paris, c'est quoi?
C'est aller faire mes meilleurs perfs. En fait, arriver à Paris avec mon meilleur niveau. Mm-hmm. Et encore une fois, si les filles me battent, tant mieux pour elles, et je les féliciterai. Par contre, il faudra qu'elles s'accrochent pour venir me battre. Là, je m'excuserai pas.
Attention, Mariella.
Non, mais je fais tout pour. Donc, je fais tout pour... Et d'ailleurs, bah, y a des titres qui sont tombés qui n'étaient pas vraiment prévus, parce que cette année, elle n'était pas censée être... C'était pas censé être une année de perf, mais c'est que ça montre qu'on est sur la bonne voie et que l'alchimie et l'harmonie qui s'est créée dans ce staff qui m'entoure, elle est incroyable.
Et après Paris 2024, c'est quoi le...
Après Paris 2024, j'arrêterai le vélo.
Ah ouais, c'est vraiment, tu sais déjà
dans le
que...
haut niveau, ouais, okay. J'arrêterai parce que déjà, de tout ce que j'aurai emmagasiné grâce au haut niveau, j'ai envie de le transmettre.
D'accord.
Et on va être honnête, on peut pas transmettre autant qu'on veut quand on est sportive de haut niveau en activité, de par le temps, de par peut-être certains sujets un peu sensibles. Et j'ai envie de prendre ce temps-là, en fait, pour pouvoir... juste partager ce que moi j'ai vécu. Après, il y a l'âge qui joue. Et puis, j'ai quand même un métier qui a été un de mes premiers rêves, qui est celui de médecin, que je pratique plus beaucoup aujourd'hui. Et ça me manque, c'est un vrai compromis qui me coûte à faire, que j'ai envie de retrouver. Et puis, j'aurais probablement envie d'aller vers autre chose, d'ouvrir d'autres portes. Voilà.
On a l'impression que t'es boulémique de... d'énergie, de projet
Non, je suis juste ouverte au projet. J'ai aucun... Je pourrais te citer aucun projet concret.
Okay.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je serai. Et d'ailleurs, mais c'est ce que le sport aussi de haut niveau m'a appris. C'était qu'en 2017, quand je soutenais ma thèse, pour moi, j'étais médecin. Quoi. Et à aucun moment, je me suis dit que l'année d'après... ou 2 ans après, j'allais finir sur les listes ministérielles de haut niveau à préparer les Jeux. Donc en fait, j'ai accepté que... après 2024, je ne sais pas ce qui
va se passer.
Ouais, non.
C'est une nouvelle aventure.
Autant je partirais dans un dispensaire sur une île en plein milieu de l'océan, faire de la médecine différente, autant j'irais dans un cabinet, autant je ne ferais peut-être pas de médecine, enfin, j'en sais rien. Mais c'est OK.
Tu te laisses les opportunités...
Je pense que j'ai bien assez cravaché entre mes études et le sport de haut niveau pour avoir cette chance d'avoir la liberté de me dire s'il y a une porte qui s'ouvre, vas-y. Dans tous les cas, par mon métier, j'ai une bouée de sauvetage en or. Ouais. Quoi. Et en plus, le pire, c'est que ce n'est pas une bouée de sauvetage parce que je sais que si je me retrouve à être, entre guillemets, que médecin, je serai épanouie.
Ouais.
Donc, je suis sereine.
C'est génial.
Voilà. Après, ça se prépare. Hein.
Bien sûr.
Je vais pas mentir qu'il y a quand même quelques angoisses. Quand je vais rentrer de Paris, que je quitterai le village, il passera quoi? Je vais faire quoi de mes vélos? Il y en a quand même 5-6 à la maison. Quoi, donc... c'est presque des personnes.
Ça fait de la place.
Coloc, quoi.
Ils ont des noms.
Non, quand même pas. Mais j'affiche pas mes médailles. Mes médailles sont dans les tiroirs. Par contre, les vélos avec lesquels je fais médailles sont affichés au mur.
Ok, ça prend de la place. C'est une déco un peu encombrante.
Alors, ils ont pas des roues. Il y a que le cadre qui est affiché. Il y a pas les roues.
Trop bien. Écoute, on va finir avec une question, juste qui est la question que j'ai tendance à poser tout le temps à la fin du podcast, qui est si tu devais donner ta définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais?
J'ai combien de temps? J'ai 3 heures, c'est ça?
Prends
4 pages.
Prends tout le temps que tu veux. tu veux me faire une petite disserte en même temps, il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce que c'est une championne? Déjà, pour moi, une championne, ça sort du cadre sportif. N'importe qui peut être une championne. C'est quelqu'un qui est honnête avec soi-même, qui est capable d'affronter son désir profond et de tout mettre en œuvre malgré les peurs pour y avoir accès, quitte à prendre le risque d'échouer. Et même s'il y a cette sensation d'échec à la fin, rien que parce qu'elle aura osé faire tout le cheminement, c'est une championne. En fait, pour moi, ce qui compte, et d'ailleurs, c'est très étrange, mais je suis souvent très fière de mon résultat sportif une fois que je franchis à une arrivée. Ouais. Mais une fois que je suis sur le podium et que j'ai la médaille, ça prend moins sens. Mais parce que pour moi, c'est le cheminement qui compte. T'apprends tellement en osant, en allant au-delà de tes peurs, en faisant preuve de courage, c'est ça qui te rend championne, en fait. C'est pas le fait que tu fasses 1, 2, 3, 4, 8. Parfois, il y a des sportives qui finissent 8e de championnat et qui ont mis des valeurs et qui ont mis en place des choses tellement fortes et tellement importantes humainement qu'elles mériteraient qu'on les écoute autant que celui ou celle qui finit sur la première marche du podium. Et donc pour moi, c'est ça une championne. C'est une personne qui a réussi à aller au-delà de ses peurs en écoutant son plaisir et son désir profond.
Ah bon? Ouais. Ça aura pas fait...
Non, mais j'aurais pu continuer longtemps.
et juste pour conclure du coup cet épisode, s'il y avait... C'est compliqué parce qu'on s'est raconté beaucoup de choses, ça fait une heure qu'on parle et c'était très dense. Ouais. Si tu voulais que les gens qui écoutent cet épisode retiennent vraiment une chose, ce serait quoi? T'aimerais que les gens retiennent quoi de cet épisode?
Que chaque rencontre qui peut paraître totalement anodine peut changer une vie et que ce qui compte, c'est l'instant présent. Un projet, ça se construit en étant dans le présent et je pense que... Et ça, c'est vrai pour tout, que ce soit dans le milieu du sport ou dans la vie de tous les jours. C'est deux trucs que moi, j'ai découvert par le sport de haut niveau, mais que je quitterai plus jamais.
Eh bien, merci beaucoup, Marie.
Avec plaisir.
C'était très dense et c'était hyper intéressant.
Merci pour ces belles questions.
Merci d'avoir partagé ton expérience. Et du coup, rendez-vous pour un épisode 2.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup et puis du coup je te dis à très bientôt.
À bientôt Cléo.
Salut.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt !